Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, au fil des pages, nous reprenons aujourd'hui notre grande aventure autour du livre de Sylvain Venner, maître de conférence à l'Université de Paris 1 en histoire moderne. Sylvain Venner, dont l'ouvrage « La gloire de l'aventure » paru chez Aubier, est honoré du prix François-Joseph Audifred, décerné par l'Académie des sciences morales et politiques. Votre ouvrage est paru chez Aubier, Sylvain Venner, et nous évoquions la dernière fois l'aventure et la littérature. Cette fois-ci, j'ai bien envie de vous demander, mais les grandes figures de l'aventure, alors celle du 19e, il y en a une que, évidemment, je connaissais, c'était Antoine de Tounens, roi de Patagonie et d'Araucanie, c'est ça ?
Et d'Araucanie, oui.
Et d'Araucanie. Mais il y en a une que j'ai découverte grâce à vous, c'est Gaston de Raoucé-Boulbon. Racontez-nous un petit peu son aventure à celui-ci.
Oui, alors Gaston de Raoucé-Boulbon, c'est un enfant d'une grande famille provençale désargentée, un petit peu bousculée par la Révolution, qui vit une vie de folie à Paris et puis à la fin des années 1840, hostile d'ailleurs par principe au régime de Louis-Philippe, et qui se retrouve complètement ruiné par ses frasques, ruiné par une tentative également qu'il fait à la toute fin des années 40 de colonisation dans la plaine de la Mitidja en Algérie, où il essaie de fonder un établissement agricole. Et bon, c'est un échec. Ruiné à Paris en 1848, au lendemain de la Révolution et au lendemain de la confiscation de la Révolution après les journées de juin, Raoucé-Boulbon décide de partir pour la Californie. Le sud de la Californie, mais dans le Paris de cette époque, on parle de la Californie, de l'or qu'on a trouvé en Californie. Oui. Le gouvernement, justement après les journées de juin, essaie d'envoyer en Californie une grande partie
des
ceux qui considèrent comme les meneurs de la manifestation. On organise des choses incroyables. D'ailleurs, il y a une loterie du lingot d'or pour les gagnants obtiennent des billets immédiats pour la Californie pour justement s'en débarrasser.
Donc notre Gaston part en Californie.
Il part et il retrouvera énormément de Français. À cette époque-là, la population française, c'est un quart de la ville de San Francisco.
Ce qu'on ne sait pas toujours, oui.
Non, c'est ce qui compte pas mal. Il ne fera pas de métier de mineur sur place, il en fera d'autres, il sera débardeur, il sera gardien de troupeaux, ce genre de choses, mais lui ne cherchera pas d'or. À ce moment-là, le Mexique a perdu la guerre récente contre les États-Unis d'Amérique, a d'ailleurs en l'occurrence, perdu la Californie juste avant qu'on y trouve de l'or. Et on pense beaucoup dans les milieux français que le Mexique est en déliquescence politique et que le Mexique, l'État mexicain, est incapable de gouverner l'ensemble de son territoire et particulièrement les provinces du Nord. Il a déjà perdu la Californie. Il serait logique qu'il perde la Sonora.
Alors, la Sonora, c'est une province donc, du Nord du Mexique. Grâce à vous, je l'ai appris. Et c'est ça, c'est cet endroit que Gaston de Raoucé-Boulbon va conquérir.
Qui va quand même plus ou moins réussir à conquérir, puisqu'il va fédérer des mineurs mécontents de leur situation à San Francisco, dont beaucoup de Français. Il va monter une petite armée de 400 hommes. On dit à cette époque-là qu'il y a dans la Sonora des mines d'argent. Et avec sa petite armée de 400 hommes, il va descendre sur le Mexique et essayer de conquérir la Sonora avec un plan qui sera d'ailleurs plus ou moins repris par la suite par Napoléon III, puisqu'il s'agit, ni plus ni moins, de créer un État qui serait un État vassal de la France, qui permettrait à la fois de régénérer, selon une logique révolutionnaire, le Mexique hispanique en déliquescence et de faire barrage à l'énergie anglo-saxonne des Américains. Tout ça, je vous dis ça avec les termes de l'époque.
Alors, vous découvrez donc avec Sylvain Venner, grand historien de l'aventure, l'une des figures de l'aventure du 19e, Gaston de Raoucé-Boulbon, mais vous pourriez aussi découvrir Antoine de Tounens, Charles-Marie David de Marena et James Brooke. Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de James Brooke. Celui-ci, il va partir et va devenir Raja du Sarawak.
Oui, alors,
cet endroit merveilleux.
Sarawak, c'est au nord de l'île de Bornéo. James Brooke n'a pas fait l'objet en France de biographie importante.
Oui, il est moins connu.
Il n'est pas très connu, il est très connu en Angleterre. Et pour une bonne raison, c'est que contrairement à Raoucé-Boulbon, qui va être fusillé par les autorités mexicaines en 1854, parce qu'on ne prend pas le Mexique comme ça malgré tout, mais qui donnera des idées à d'autres, hein, puisque l'américain, le flibustier William Walker, lui, réussira à conquérir le Nicaragua en 1860.
Vous voyez que Sylvain Venner est la véritable encyclopédie des aventuriers, le woos-woo de l'aventure. Vous pouvez tout lui demander, il sait tout. Donc James Brooke, anglais,
au début des années 40, donc avant l'histoire de Raoul Séboulbon, réussit à se faire nommer Raja, sultan de la province de Sarawak, après avoir armé un yacht en guerre, avoir aidé le sultan local Mouda Hassim à lutter contre les pirates, ces pirates qui infestent la région et dont Joseph Conrad parlera beaucoup à la fin du XIXe siècle. Et lui, ce qui est extraordinaire chez James Brooke, c'est que, contrairement à Raoul Séboulbon, contrairement à William Walker, lui va réussir dans son entreprise.
Il va devenir Raja.
Même si on l'a oublié, dans la seconde moitié du XIXe siècle, on parlera beaucoup de lui parce que la plupart des voyageurs dans cette partie du monde s'arrêteront à Kuching, la capitale de James Brooke, et la capitale des descendants de James Brooke, puisque le Raja...
Il a fait souche.
Sarawak est devenu un protectorat britannique. Il y a un consul anglais à Kuching. La couronne, Victoria, reconnaît l'indépendance du Sarawak et le protectorat.
Donc, au fond, là, l'aventure a été récupérée par, j'allais dire, le système.
Oui, mais en même temps, ça fait rêver, tout le monde en parle. Dans les aventures du capitaine Corcoran, le héros survole le Sarawak, on parle beaucoup de ça. Alors que quand on parle d'Antoine de Tounas, par exemple, Jules Verne en parle dans Les Enfants du Capitaine Grant, mais c'est sur le mode ironique, parce que Antoine de Tounas a raté toutes ses entreprises, a fini dans la misère, s'est identifié au milieu bohème de la capitale, où on se moquait de sa couronne qu'on lui a achetée.
Oui, c'est plutôt Jean Raspail qui nous l'a réhabilité.
Absolument.
Alors.
Absolument.
Et le fait que cet homme réussisse, donc James Brooke, réussit à devenir Raja du Sarawak, ça me fait penser donc à la littérature et évidemment à Kipling dans L'homme qui voulait être roi. Alors, quels sont les liens entre la littérature et l'aventure? Et justement, je crois que les aventuriers du début du siècle, enfin, vers les années 30, vont être presque tous des écrivains.
Oui, et tout est là en fait. Parce que quand Brooke vit ce qu'on considère comme ses aventures et ce qu'on considère maintenant comme sa vie d'aventurier dans les années 1840, à cette époque-là, il n'est pas du tout considéré comme ça. Il est considéré comme un marginal éventuellement, il est considéré comme un civilisateur qui va quand même civiliser les Dayaks du nord de Bornéo, ce genre de choses, mais on ne le considère pas comme un aventurier. Et c'est à partir de Kipling et de L'homme qui voulait être roi de 1888 et de l'immense masse de livres qui, après, va être issu de cette aventure-là, à commencer par Lord Jim de Joseph Conrad, où on retrouve des traces de l'aventure de Brooke. C'est à ce moment-là qu'on va définir ces gens qui partent aux confins de la planète comme des aventuriers, voulant retrouver une espèce de vie sauvage originelle, mais bénéficiant de la supériorité naturelle de l'homme blanc, hein, qui est quand même un lieu commun qu'on répète volontiers à la fin du XIXe siècle. Et c'est vraiment étonnant, parce que si on lit le peu de choses que ces gens nous ont laissées comme traces, on voit bien qu'eux n'ont aucune envie de retrouver une vie sauvage originelle au nord de Bornéo ou au Mexique ou comme Mairena dans les montagnes indochinoises. Eux veulent civiliser, apporter la civilisation, enfin, le disent en tout cas, apporter la civilisation européenne. Et à partir de la fin du XIXe siècle, au moment où avec Kipling ou d'autres, on va en faire des figures d'aventuriers, ça va être pour renverser la thématique et dire qu'en fait, ils sont partis pour retrouver leur... le barbare qui était en eux, en quelque sorte.
Voilà, alors on pense évidemment à Rimbaud, on va penser à Henri de Montfred, on pense à Laurence d'Arabie, je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre, je ne crois pas d'ailleurs, mais Rimbaud, évidemment, alors là, on ne peut pas faire mieux entre la littérature et l'aventure, puisque c'est même l'aventure et la poésie, tout un chapitre de votre livre est consacré à lui.
Et on ne peut pas faire mieux non plus dans l'ambiguïté des rapports entre aventure et littérature, puisque Rimbaud ne nous a laissé à aucun moment, dans son courrier en particulier, son courrier d'Abyssinie, des témoignages selon lesquels il poserait à l'aventurier ou il rechercherait la vie d'aventure. Rimbaud, c'est tout à fait autre chose. Quand il arrive sur la Corne de l'Afrique, il cherche à faire fortune, il ne veut plus du tout écrire.
Il ne se positionne pas comme aventurier, finalement.
Et pas du tout.
C'est après qu'on a, nous, fait ce mythe.
Voilà. Rimbaud meurt en 1891 et immédiatement après démarre un mythe qui va le présenter comme un grand aventurier aux frontières du monde. Recherchant, c'est ce qu'on dira à l'époque, recherchant dans la vie d'aventure telle qu'elle fait l'objet à ce moment-là de cette constitution mystique dont on parlait la dernière fois, recherchant exactement la même chose que ce qu'il a recherché à l'intérieur du langage quand il était poète. Et tout un...
un dévoilement du monde, un autre sens caché. Voilà,
tout un discours apparaît à ce moment-là, disant la poésie telle que Rimbaud l'a initiée, la poésie moderne, et la quête de l'aventure pour elle-même, c'est la même chose. Et disant, comme le disait Jean Kelevitch dans ce livre dont on parlait la dernière fois, l'aventure, c'est une modalité poétique de l'existence.
Voilà, en tout cas, on peut avoir une existence aventureuse, aventurière, enfin, je ne sais pas comment il faut dire. Est-ce que c'est le cas, par exemple, pour un certain nombre d'écrivains, Saint-Exupéry, Kessel, Henri de Montfred, enfin, tous ces grands écrivains qui appartiennent à la littérature française, parce que je ne cite que ceux-là, mais il y en a beaucoup dans la littérature, évidemment, anglo-saxonne.
Et oui, il a commencé par leurs grands modèles comme Conrad et London.
Oui, absolument. Et puis Laurence d'Arabie aussi, qui était lui-même une grande figure d'aventurier. Alors l'aventurier de cette époque, c'est à la fois celui qui vit l'aventure, qui l'écrit, qui la rédige, et puis sur laquelle on écrit aussi beaucoup d'ouvrages, sur lequel on écrit beaucoup d'ouvrages, sur son aventure, sur lui-même. Donc ça, c'est la figure de Laurence d'Arabie.
Oui. Et puis cette figure qui apparaît justement dans cet entre-deux-guerres, qui est celle de l'aventurier écrivain.
Oui, c'est Saint-Exupéry, par exemple, c'est Kessel, c'est...
Oui, j'ai tendance à croire que les deux plus, en France, pour rester dans le domaine de la littérature française, les deux plus remarquables sont Saint-Exupéry et Malraux, parce que ce sont les deux qui ont une claire conscience de l'historicité du désir d'aventure à cette époque-là. Ils n'imaginent pas que ce qu'ils cherchent comme étant la vie d'aventure, on l'a cherché à toutes les époques. Et ils montrent bien, tous les deux ont très clairement conscience que cette quête de la vie d'aventure est étroitement dépendante du grand mouvement d'exploration et de colonisation de la planète qui a eu lieu au XIXe siècle.
Donc toujours les vertus de l'aventure, l'accomplissement de soi, au fond la méditation sur la vie et la mort, parce qu'il y a toujours un côté dangereux dans l'aventure, sinon je crois qu'il n'y a pas d'aventure. Et puis le monde qui effectivement n'a plus le même sens avant qu'après, mais vous démontrez aussi que ces aventuriers ont un côté rupture avec la société, c'est-à-dire ils refusent d'abord la bourgeoisie, ils refusent le collectif. En ce sens, ce ne sont pas des touristes, naturellement. Et ils refusent tout ce qui n'est pas solitaire. Ce sont un peu des anarchistes, non ?
Comme dit Ernst Jünger, qui était fasciné par cette mystique de l'aventure, ce sont des anarchistes qui ne croiraient pas à l'anarchie. Des anarches. Jünger propose de les appeler des anarches.
Alors, Sylvain Venère, puisqu'on parle de l'aventure, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des aventuriers au sens où, justement, vous nous avez défini les critères de l'aventure, fin 19e, début 20e? Y a-t-il encore aujourd'hui des aventuriers, aujourd'hui, début du 21e?
Je dirais plus que jamais. Alors, on peut critiquer beaucoup de choses en disant « Ah, mais ces gens qui partent pour la route du Rhum, le Paris-Dakar ou la traversée du Sahara à pied ou que sais-je encore ». En fait, n'en sont plus vraiment parce qu'ils ont des balises Argos, parce qu'ils sont surveillés par les caméras, parce que toute la marine australienne vient à leur secours dès qu'ils ont un souci. Mais en fait, ils sont complètement dans cette logique qui a été inaugurée à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui consiste à faire de la valeur, de l'aventure, la valeur clé de son existence. Alors, on peut critiquer mais les moyens qu'ils mettent en œuvre pour réaliser cette aventure, mais en fait, ça n'a pas tellement de sens de juger. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ils sont partie prenante de cet idéal formé aux alentours de 1900.
Voilà, vous avez donc compris la thèse de Sylvain Venère dans son ouvrage « La gloire de l'aventure, genèse d'une mystique moderne, 1850-1940 ». Je rappelle que cet ouvrage est paru chez Aubier et qu'il est honoré cette année du prix François-Joseph Audifred, décerné par l'Académie des sciences morales et politiques. Sylvain Venère, j'espère vous retrouver une autre fois pour parler encore des aventuriers, parce que c'est vraiment passionnant. Et je vous dis à très bientôt.
Merci.
Thank you.